Son d'Avril présente
Cap Ferret Musical.
Une série de podcasts animés par le journaliste Stéphane Friedrich et ses invités qui portent un regard original sur la musique. Certes, on vous parle de compositeurs et d'interprètes présents durant le festival, mais d'une manière différente, parce que la musique se nourrit aussi de tous les talents qui nous rejoignent pour parler de leur passion.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast de la 13e édition du Cap Ferret Music Festival. Dans un lieu tout au bout du Cap Ferret, un lieu dont nous tairons le nom même sous la torture, un lieu absolument magique, magnifique, extraordinaire face à la dune du Pilat. Durant les podcasts que nous présentons, nous avons un certain nombre d'invités. Et les invités ont ceci de particulier, c'est qu'ils vont tous rendre hommage à la forêt, au bois, et plus exactement à une faune, à une flore, à une nature exceptionnelle ici dans le bassin d'Arcachon, si durement meurtri, il est vrai, par les incendies de l'été dernier. Mais cela fait partie aussi de la philosophie du festival, des statuts même du festival, et ça c'est tout à fait étonnant d'ailleurs pour un festival, qui précise que la mise en valeur du patrimoine naturel et architectural est une nécessité. Comment ne pas être fasciné par les paysages qui nous entourent ? Alors, durant les quelques nombreuses minutes que nous avons passées ensemble, nous avons donc décidé de réunir des personnalités qui ont un lien direct et sensible avec la forêt et de quelle manière cette forêt enrichit chacun de nous et bien évidemment les artisans et les artistes. Autour de cette table, nous accueillons tout d'abord Philippe Fougeras. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'Office national des forêts, chef de projet des forêts d'exception du bassin d'Arcachon.
Tout à fait.
Une charge ô combien passionnante, enthousiasmante et terrifiante même certaines années. Votre mission consiste donc à faire chanter les forêts de votre domaine. Gilles Brahem nous a rejoint, bonjour. Vous êtes un célèbre luthier bordelais. Vous parlez le langage du bois, table, barre d'harmonie, âme, que vous avez d'ailleurs amené d'ailleurs, vous avez amené plusieurs âmes. Bloc et contre-éclisse, chez vous nous ne parlons que de bois, de cordage éventuellement. Et votre mission consiste à faire chanter le bois des forêts, même quand celui-ci n'appartient pas aux essences des forêts du bassin d'Arcachon. Et enfin, Olivia Gay, vous êtes violoncelliste, une soliste au parcours remarquable en tant qu'artiste, mais aussi passionnée par la préservation des forêts, ce qui est un peu plus étrange et un peu plus remarquable encore. Vos engagements ne sont pas que des mots, car vous faites venir le public en forêt et vous avez noué d'ailleurs un partenariat avec l'Office national des forêts, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Bonjour Olivia. Avant de croiser le bois entre musique et forêt, j'aimerais que l'on rappelle quelques données quant à cette nature. Déjà, là où nous sommes, quelques données peut-être plus générales, je crois. Si mes petits papiers sont bons, l'Office national des forêts, c'est 110 000 professionnels qui gère en France et en Outre-mer un espace de 11 millions d'hectares de forêt.
Tout à fait.
Territoire absolument extraordinaire, mais qui nous entoure, celui en l'occurrence qui nous intéresse plus exactement, c'est celui de la forêt dunaire, 6250 hectares.
Alors 6250 hectares sur le bassin d'Arcachon, mais 45 000 hectares pour la forêt dunaire qui va de la pointe de Grave jusqu'au sud des Landes.
Quoi qu'il en soit.
Forêt littorale atlantique dunaire.
Quoi qu'il en soit, il s'agit du plus grand massif forestier dunaire d'Europe.
Oui.
Alors précisément, Philippe Fougeras, comment vivez-vous au quotidien cet univers sylvestre ? Comment déjà ont été formées ces pinèdes ?
Alors ces pinèdes, elles sont en fait partiellement artificielles. Elles sont le fruit d'une histoire. Ce qu'on imagine généralement pas, certains le connaissent, mais tout le monde ne le sait pas, c'est que sur 5 km de littoral, hein, sur toute la côte atlantique, il n'y avait que des dunes. Il faut s'imaginer un paysage de désert, hein, certes plus humide que le Sahara, mais malgré tout des dunes qui bougeaient, qui étaient mobiles, qui qui avançaient sur les terres. Et c'est ce qui fait la particularité de ce territoire. Et c'est la raison pour laquelle Napoléon a souhaité fixer ces dunes par un décret de 1808. Et c'est comme ça qu'elles sont devenues forêts domaniales, forêts de l'État.
C'est ici, madame, que vous avez été photographiée par M. Arnaudin ?
Oui, monsieur. Pas tout à fait ici, hein. Peut-être à 200 mètres, là. Mais c'est impossible d'y aller, à présent.
Pourquoi est-ce impossible ?
Et parce qu'il y a de la forêt, beaucoup.
Parce qu'il n'y avait pas de forêt ?
Ah non, c'était plat.
Complètement plat ?
Oh oui. Comme ça.
Pourquoi étiez-vous sur des échasses ?
Oh, on m'y a fait monter, on m'a fait essayer d'y monter. Autrement, autrefois, c'était ça, hein, les échasses. Le berger.
Depuis qu'il y a des pins, est-ce que la vie a changé dans la région, vraiment ?
Oh, ça, certainement, la vie a changé. Parce que il n'y avait plus de troupeaux après, quand il y a eu des pins comme ça.
Ça a été un bien ou un mal ?
Oh, ma foi, vous savez. Ça a été peut-être un bien pour les gens de la campagne, pour travailler.
Parce que c'était plus dur avec les moutons ?
Il fallait être tous les jours. Là, il fallait les suivre, du matin au soir.
C'est l'État qui a boiser ces dunes pour les fixer, pour lutter contre l'érosion éolienne. Le sable n'arrête pas la mer, bien entendu. Mais stabiliser ces dunes permet d'éviter la mise en mouvement des
dunes. Il y avait donc une conscience de la préservation du patrimoine, d'un certain patrimoine vivant, dès cette époque, dès le Premier Empire ?
Alors, il y avait une conscience, ça c'est un petit peu ce qu'on dit, il y avait aussi à l'époque une notion de valorisation du territoire. On voulait valoriser ce territoire qui, entre guillemets, ne servait à rien à l'époque, puisque ces dunes étaient considérées comme stériles. On parlait des dunes qui marchent, elles apportaient finalement que des ennuis. Et on savait déjà, parce qu'il y avait quelques forêts historiques qui nous le montraient, que sur le relief dunaire, le pin maritime pouvait donner de la résine, donner de la gemme et être productif. Donc il y avait quand même aussi cette notion importante d'intérêt économique, de valorisation du territoire. On a asséché les landes, on a boisé les dunes. C'était une époque où l'État aménageait le territoire.
Mais vous êtes résigné depuis combien de temps ?
Depuis l'âge de 16 ans. Même avant, 14 ou 15. Parce qu'on n'en est pas à l'école jusqu'à 14 ans, en ce moment.
Jusqu'à quel âge ?
11 ans, moi, j'y étais. Après, j'ai commencé à travailler avec mon pauvre père dans les bois, comme ça.
Et vous faisiez combien d'arbres par jour ?
On en faisait... Ça dépend des cares qu'il y avait. S'il n'y avait qu'une care, vous en faisiez 1800. Autrement, à deux cares par pain, 1400-1500 par jour.
1400 ou 1500 pains par jour ?
Oui. Comme ça, on partait le matin de bonne heure, avec le pain à manger pour la journée, quoi.
Mais l'intérêt économique aussi, ça fait partie de la gestion de votre mission également dans une forêt de ce type. Comment gère-t-on une forêt ? Alors, je ne parle pas évidemment du drame qui s'est produit l'année dernière, mais qu'est-ce que cela représente en termes de gestion d'espace, d'un espace qui est quand même particulier et fort différent, je suppose, des forêts de l'Est de la France ?
Oui, c'est différent des forêts de l'Est de la France, mais la philosophie est toujours la même. C'est-à-dire que en France, on ne considère pas qu'une forêt a un enjeu social ou un enjeu environnemental ou un enjeu de production en tant que tel. C'est finalement ces trois enjeux qu'il faut concilier. Chaque forêt a des fonctions de protection des paysages, de la biodiversité et protection des sols, bien entendu. Elles sont productives et elles ont un enjeu social puisqu'elles accueillent du public. Et c'est ces trois enjeux qu'on essaye de concilier. Ici, un petit peu plus qu'ailleurs, puisqu'effectivement, autour du bassin d'Arcachon, l'accueil du public est quelque chose de prépondérant et d'important. Ces forêts restent productives. Une forêt comme celle de l'Aige et Garonne, par exemple, c'est 10 000 m3 par an. Ça reste des forêts qu'on exploite. Et puis, la protection des paysages, de la biodiversité a évidemment pris une ampleur toute particulière
Il est vrai aussi que je crois qu'il y a 1,5 million de personnes qui viennent, qui traversent les forêts durant la période estivale.
Alors sur les cinq plans plages, alors c'est les plans plages, ce sont les dispositifs d'accueil que certains connaissent, hein, avec donc les parkings sous couvert forestier et les zones pour accéder à la plage. C'est effectivement 1,6 million de personnes sur l'Aige Cap-Ferret et la Teste.
Passons maintenant du côté de l'artiste. Il y a quelque chose de tout à fait curieux, c'est qu'il y a un sentiment à la fois de protection, de préservation chez de plus en plus d'artistes. Alors c'est la conscience aussi d'un monde qui évolue, d'un monde qui change. Le fait, Olivier Aguet, que vous soyez intéressé à la forêt. Mais ça, la forêt, c'est une passion que tout le monde peut avoir. Mais en l'occurrence, joindre cette passion à votre métier, à votre autre passion musicale. Comment vous est venue cette passion, puisque je crois que vous êtes plutôt quelqu'un de l'Est? Et en même temps, de quelle manière avez-vous conçu ce rapprochement, imaginé un rapprochement avec l'Office national des forêts?
Alors effectivement, moi je viens de l'Est de la France, on en parlait tout à l'heure au sujet de ces forêts, et donc j'ai grandi avec elle, avec la nature en général. C'est une région qui est assez rurale et où voilà, je pense que tous les enfants, en tout cas de ma génération, étaient élevés à la cueillette des champignons et aux baignades dans les lacs, en gros. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a bercée, tout comme la musique, puisque j'ai commencé jeune, comme tous les musiciens professionnels. Et en fait, tout simplement, je me suis rendu compte aujourd'hui que c'était les deux piliers de ma vie et que c'est toujours les deux piliers de ma vie, la musique et la nature. Alors, la forêt fait partie de la nature. La nature, au sens général, pour moi, est une inspiration pour mon art depuis toujours. J'ai une autre passion dans la vie qui est celle des chevaux. Donc, j'ai aussi énormément vadrouillé à cheval relativement jeune. J'ai eu des chevaux assez jeunes aussi. Et voilà, donc tout ce monde végétal, animal, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Donc, je ne me suis pas jamais posé vraiment de questions. C'est simplement qu'à un moment donné, dans mon parcours artistique, je me suis rendu compte que les projets que je créais, par exemple des répertoires de disques, pour moi, c'est toujours important d'essayer d'apporter quelque chose pour faire un disque. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens d'enregistrer un répertoire de concert ou qui n'a pas un fil rouge ou chose de personnel. Ah oui. Et en cherchant en moi, justement, ce qu'il y avait de personnel et ce que je pouvais apporter éventuellement sur un disque, je me suis rendu compte que c'était l'aspect, justement, naturel de la musique, c'est-à-dire essayer de vraiment montrer ce lien qui existe depuis toujours, pour moi certes, mais surtout pour les artistes depuis bien plus longtemps que moi, entre la nature et la musique, les arts en général.
Oui, mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que vous auriez très bien pu simplement rester à bâtir des programmes liés sur une thématique, ça se fait de plus en plus sur une thématique de la nature, mais en même temps, vous faites la démarche d'aller en forêt, de jouer en forêt, donc par conséquent, d'amener du public en forêt, ce qui impose un certain nombre de contraintes aussi. Il est quand même beaucoup plus confortable d'être dans le silence absolu d'une salle de concert avec une acoustique qui a été calculée, qui est déjà entre guillemets préparée, prépositionnée. Donc comment choisir d'aller en forêt et comment faire en sorte de s'adapter, d'adapter son répertoire, sa musique, au bruit de la forêt, au son de la forêt? Font-ils partie intégrante? Vous me direz, vous jouez du violoncelle, donc un instrument qui est entièrement en bois, certes.
Oui, alors là, il y a plusieurs questions en une. Donc déjà, comment j'ai fait la démarche de créer cette initiative donc, qui s'appelle Le silence de la forêt? Eh bien, en fait, ça faisait un moment que j'avais envie de m'engager personnellement pour quelque chose qui concernait la préservation de la nature. En général, je n'avais pas vraiment encore de ligne directrice très figée. Et puis, petit à petit, je me suis dit que la meilleure manière en tant qu'artiste, c'était quand même de s'engager avec mon art et pas seulement comme personne. Et c'est comme ça que je me suis dit, peut-être que répertorier un certain nombre d'œuvres pour mon violoncelle et d'autres qui ont été inspirées par la forêt directement ou par les éléments qui la composent. Ça, ça a été ma première démarche. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de l'enregistrer. Donc, ce qui a fait l'objet d'un disque qui est sorti en septembre et qui s'appelle Whisper Me a Tree, donc Murmure-moi un arbre, qui a été enregistré notamment avec l'Orchestre de Cannes. Ma partenaire pianiste Célia Onetto Ben Said qui sera là ce soir et demain. Merci. Au Festival du Cap Ferret. Et puis la troisième étape, ça a été de me dire, bon bah voilà, je suis une artiste, c'est bien beau d'avoir fait un disque, mais qu'est-ce que ça apporte au juste? Et donc d'aller me rapprocher de ce qui était pour moi eh bien, l'institution étatique de la préservation des forêts, l'Office national des forêts. Donc c'est comme ça que j'y suis allée un petit peu le bec enfariné, si je puis dire, en disant voilà, bah, coucou, je suis musicienne, j'ai envie d'apporter mon gravillon à l'édifice et j'aimerais reverser déjà donc, un certain pourcentage des royalties de ce disque au fonds de dotation de l'ONF qui s'appelle Agir pour la forêt. Et ensuite, j'ai commencé aussi à parler de cette envie d'aller jouer en forêt, d'aller jouer sur les forêts qui ont brûlé aussi. C'était quelque chose d'important pour moi. D'amener le public sur place dans une expérience immersive où justement, comme vous le disiez tout à l'heure, la musique de la nature a autant sa place que celle que l'on joue sur scène. Oui. Et donc, où on laisse absolument vous disiez les bruits, mais pour moi, voilà, les sons de la forêt exister, vivre, et pour moi, ils apportent quelque chose plus qu'ils ne gênent. Effectivement, il y a des contraintes, vous l'avez dit aussi. Évidemment, bah, le climat, hein, plus d'une fois, j'ai été obligée de reporter ou de me replier dans un lieu couvert. Chose qui est toujours assez difficile à gérer quand on a bloqué une date, communiqué sur la date, etc. Mais en même temps, ça nous remet à notre place d'humain dans la nature et qui, ben bah, voilà,
on
qui.
Fait avec.
On fait avec, et puis c'est, même si c'est frustrant, eh bien c'est comme ça. Voilà. Et l'acoustique est ce qu'elle est, c'est une acoustique naturelle. Moi, j'ai choisi de l'accepter, elle ne me dérange absolument pas. Et d'ailleurs.
Est-ce que vous pouvez d'ailleurs en jouer de cette acoustique naturelle? C'est-à-dire qu'à chaque fois, évidemment, il doit y avoir des réverbérations particulières. Il y a des phénomènes peut-être d'écho aussi, il y a des phénomènes, tous les phénomènes entre guillemets parasites. Vous avez les bruits des oiseaux, vous avez le vent. De quelle manière cela peut influencer sur votre jeu, la manière de jouer, la dynamique, les résonances, la façon d'attaquer?
Alors, les réverbérations, il faut être très clair, il n'y en a pas. Hein. En forêt, le son est très mat. Ouais. Il n'y a pas d'écho. Voilà,
pourtant, nous sommes entourés avec du bois. Vous me direz, ce n'est pas du bois qui est travaillé.
Oui, alors je pense que ça permet justement d'avoir une acoustique qui est malgré tout bonne. Et d'ailleurs, les gens sont toujours très surpris parce qu'ils appréhendent énormément cette acoustique en forêt, voilà, sans rien pour réverbérer autour. Et en fait, après, j'ai même souvent eu des réflexions de personnes qui me disaient « Mais en fait, vous aviez un système d'amplification ?» Je dis « Bah non, pas du tout. Non, non, on joue 100% naturel. » Mais effectivement, donc je pense que le bois des arbres aide quand même à avoir un son qui est beau, en fait, qui est vraiment beau. Mais on n'a pas cette réverbe qu'on a dans les salles, évidemment, qui est qui sont créés pour.
Bien sûr. Est-ce qu'il y a également cette possibilité, contrairement à une salle de concert où le public est assis, est-ce qu'on peut avoir aussi imaginé un public debout? C'est-à-dire que le public peut arriver peut-être à tourner dans un silence tout à fait relatif, mais autour de l'instrument. Ça, c'est quelque chose qui est passionnant. Et je crois que d'ailleurs, ça a été testé dans les ensembles baroques, c'est-à-dire d'avoir une vue, une perception volumétrique de la musique.
Ok, alors là, c'est pas ce qui est imaginé dans mon concept, entre guillemets. Oui. Voilà, les gens peuvent être debout éventuellement, sont la plupart du temps assis, très oui. souvent, et ça c'est super sympa, et notamment quand c'est l'ONF qui organise, il y a des transats. Alors là, on peut vraiment être allongé en immersion,
comme
détendu.
Une séance de cinéma.
Un peu, ouais, oui, voilà. Alors parfois, il y a des morceaux de souche qui oui. sont disposés pour faire des arbres, des ballots de paille, ou bien chacun amène quelque chose pour s'asseoir par terre. Voilà, c'est l'idée, c'est quand même cette ambiance aussi sylvestre et détendue. Et puis je pense que ce qui est assez important dans cette expérience, c'est que on est peut-être moins centré, et nous artistes aussi, sur nous-mêmes, sur notre performance, comme ça peut être le cas dans une salle,
bien sûr,
où là toute l'attention est absolument figée sur l'artiste et ce qu'il va donner. Là, on fait partie d'une expérience, c'est pas forcément auto-centré. Et en fait, ça nous oblige, nous artistes, à une sorte de lâcher prise aussi, c'est-à-dire accepter cette acoustique qui n'est pas facile à jouer, voilà, accepter que de temps en temps, il y a un coup de vent qui nous balaye les cheveux dans le visage. Et voilà, et en fait, c'est quelque chose qui devient très agréable une fois qu'on a accepté tout ça, et que surtout, on a conscience qu'on est là pour toucher à travers la musique sur un sujet autre, en fait, un sujet environnemental.
Philippe Fougeras, il y a un certain nombre de plasticiens qui ont déjà tenté des installations dans des forêts. C'est une démarche qui est relativement naturelle. Est-ce la première fois que vous avez été, je dirais, confronté, entre guillemets, à ce type de demande? Et quelle était votre première réaction?
Alors le partenariat avec le Cap Ferret Music Festival, il est historique. Moi, je travaille dans le cadre d'un label qui s'intéresse à toutes les problématiques. Et c'est vrai que l'arbre ou la forêt ouvre à des tas de thématiques. On parle de la gestion forestière en tant que telle, mais effectivement, c'est des zones d'expression artistique, c'est un ressenti, c'est tout ça qui ressort quand on va en forêt. Et donc forcément, c'est des valeurs qui se retrouvent. Vous l'avez cité tout à l'heure, les valeurs du Cap Ferret Music Festival qui portent sur cette
préservation
de la nature. Forcément, c'est bien quelque sûr. Chose qui se retrouve. Et donc, ça fait quelques années que des artistes viennent se produire dans le cadre du Cap Ferret Music Festival à l'Eche Cap Ferret. Et je sais que d'autres forêts d'exception ont accueilli des troupes de théâtre, de l'art plastique, d'autres types d'art.
Gilles Brahem, vous êtes luthier. Quand on entre dans un atelier de luthier, a fortiori aussi dans une fabrique de piano, on est d'abord surpris par l'odeur. C'est une véritable usine à bois, mais on sent le bois, évidemment, la colle, les vernis. Le bois est l'élément premier de votre vie. C'est curieux d'ailleurs, parce que c'est plutôt un bois à mort auquel vous allez redonner vie. Et dans une société si évoluée sur le plan technique, on pourrait imaginer d'autres matériaux, évidemment, que le bois. Surtout aujourd'hui, on est tellement pressé, on est tellement regardant sur tout ce qui a trait au progrès technique. D'ailleurs, les clarinettistes disposent, je crois même d'ailleurs que certains violonistes disposent parfois d'instruments même en carbone. Qu'est-ce que le bois apporte depuis 3 siècles? Et d'ailleurs, pourquoi s'est-il imposé de manière tout à fait aussi extraordinaire en Italie depuis 3 siècles à la famille des instruments à cordes, du violon à la contrebasse?
Alors déjà, la différence entre le bois et les matériaux synthétiques, donc le carbone, c'est qu'on n'aura pas du tout la même approche sonore, on n'aura pas du tout le même son. Le bois a un son qui peut être très profond, très organique, qui touche vraiment au corps humain. C'est différent. Le carbone, c'est un son, mais on sent qu'il y a une synthétique dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel dans le son. Même si ça peut être assez harmonieux, mais ça ne sera jamais aussi riche que du bois. Et c'est valable pour les instruments, mais c'est valable aussi pour les archers. Les archers, par exemple, qui sont en bois de Pernambouc.
Qui est une espèce protégée.
Pernambouc, c'est une espèce protégée. Oui, de toute façon, maintenant, il n'y a plus beaucoup de bois qui ne sont pas protégés. Y compris, je crois, très prochainement, l'érable et le sapin vont l'être aussi, si j'ai bien suivi les histoires. Et donc, pour un petit peu anticiper ce futur manque de Pernambouc, les groupes des luthiers internationaux ont replanté. On a un programme de replantation, si vous voulez. Et on replante entre 200 et 300 000 arbres par an. Donc on essaie de faire en sorte qu'on puisse continuer à exploiter ce genre de bois-là.
Alors justement, on choisit différents bois pour constituer un instrument de musique. Les bois ont été pensés par rapport à un calcul de résistance, par rapport à leur résonance. Comment cela s'est-il constitué? À quel moment on a eu véritablement les règles de base qui font qu'un violoncelle, finalement, ou un violon, n'a pas évoluer dans le temps, alors peut-être vous me direz-vous le contraire, en termes de facture instrumentale, contrairement à d'autres instruments comme le piano, il est vrai, plus récent, ou les cuivres ou les vents.
Parce que je pense que le bois est irremplaçable. Et la facture instrumentale des instruments à cordes, frottés notamment, a atteint une telle perfection au XVIIIe siècle qu'il est quasiment impossible de la dépasser maintenant. On utilise toujours exactement les mêmes techniques de fabrication, on n'a rien changé, parce qu'il n'y a rien qui peut dépasser cette perfection-là, sonore et musicale.
Olivier Gay, j'ai relevé une quarantaine d'œuvres inspirées par le bois, ou plus exactement par les forêts, le chant des forêts de Shostakovich, la forêt de Glazounov, les murmures de la forêt de Liszt, ceux de Siegfried chez Wagner, le poème de la forêt, de la première symphonie de Roussel, les scènes de la forêt de Schumann, la forêt d'Amazonie, là évidemment nous quittons le continent, de Villa-Lobos, le silence de la forêt que vous avez d'ailleurs enregistré dans votre album de Dvorak, pour violoncelle et orchestre, il existe la version aussi pour violoncelle et piano. Paradoxe étrange que cet instrument au nombre de 4 cordes, peut-être 5 d'ailleurs, si on s'intéresse à la suite, à la 6e suite pour violoncelle sol de Bach avec le fameux violoncelle piccolo, enregistré. Mais quoi qu'il en soit, votre dernier disque chez Fuga Libera, Whisper Me a Tree, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, Murmure-moi un arbre, très joli titre d'ailleurs. Le bois, évidemment, c'est autre chose que ce matériau, c'est une musique vivante. On va jusqu'à la création quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut créer des œuvres simplement avec cet instrument, ce qui paraît complètement incroyable.
Oui, oui, absolument. Mais c'est, je pense que l'inspiration des compositeurs est liée à l'instrument,
oui,
et liée, là en l'occurrence, si on parle du silence de la forêt, à la forêt. Donc c'est vrai que, en fait, tout ça est finalement relié et ça donne naissance à des œuvres. Bah, vous en avez répertorié une quarantaine, donc félicitations, parce que c'est, il y en a certainement d'autres, mais c'est déjà une belle performance. Et en tout cas, ça montre bien que c'est au cœur de l'art depuis bien longtemps.
Non, mais qu'aujourd'hui, il y ait tant de créations qui se fassent dans des domaines, dans les esthétiques les plus diverses, c'est-à-dire dans l'esthétique complètement atonale, dans le minimalisme, on joint aussi le violon avec des sources électroniques. Enfin, cet instrument est absolument incroyable. C'est tout à fait étonnant. Comment avez-vous constitué justement ce répertoire ? Évidemment, il y avait le choix de cette thématique, mais en même temps, il y a votre goût aussi pour la découverte d'autres univers. Quand on parle, par exemple, de l'univers balte d'un Arvo Pärt, on va quand même très loin.
Oui, alors moi, en ce qui me concerne, ce qui était important pour moi, toujours dans cette volonté d'aider à passer un message autour de la préservation des forêts, c'était aussi de montrer que c'est un sujet qui concerne les compositeurs d'il y a plusieurs centaines d'années, mais qui concerne aussi les compositeurs actuels. Donc pour moi, c'est important de répertorier des œuvres d'hier et d'aujourd'hui. C'est pour ça que dans le disque, il y a des œuvres du 19e siècle, il y a aussi des œuvres de compositeurs vivants, comme notamment Camille Pépin, qui est une très jeune compositrice française, et qui est très inspirée par la nature. Et si on regarde son catalogue d'œuvres, je crois qu'il n'y a pas un seul titre sans qu'il soit question de tree, absolument, ou de water, ou de, voilà, des différents éléments naturels. Donc c'est comme ça que j'ai constitué mon répertoire. Alors bien sûr, la limite, entre guillemets, c'était qu'il fallait trouver des œuvres qui concernaient mon instrument. Parce que dans les œuvres que vous avez citées, il y a beaucoup d'œuvres orchestrales.
L'arrangement, la transcription,
alors voilà, on peut, dans une certaine mesure, parfois, on peut transcrire, on peut adapter. Mais je voulais d'abord essayer de trouver des œuvres vraiment écrites pour mon instrument. C'est comme ça qu'en recherchant, je me suis constitué ce répertoire qui évolue d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui en concert, je ne joue pas forcément exactement ce qu'il y a sur le disque, mais j'ai entre-temps enrichi ce répertoire. Et donc, dès que je découvre une nouvelle œuvre qui me plaît, je l'inscris au répertoire. Et puis, ça me permet aussi d'évoluer un peu, de changer le programme. Et puis, j'ai bien l'intention de continuer dans cette voie-là. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer votre liste qui me sera...
Je n'y manquerai pas, cher Olivier. Philippe Fougeras, penser l'avenir, c'est avant tout l'objectif de votre travail. Quelle est l'économie du bois pour une forêt telle que celle-ci ? Et à quel moment, plus exactement, peut-on exploiter un arbre ? Comment le fait-on ? Sur quels critères le choisit-on ?
Un arbre ou une espèce d'arbre ? Une forêt. Alors, si on s'intéresse à la forêt, la première chose, c'est l'adaptation de cette espèce aux conditions de la station, bien entendu. C'est pas par hasard qu'il y a du pin maritime ici pour parler du bassin d'Arcachon. C'est quand même une des rares espèces qui peut s'adapter dans ce milieu sableux qui est particulièrement difficile. Donc, la première des contraintes, si on peut appeler ça une contrainte, c'est de tenir compte de ce que la nature nous offre en termes de sol. Une fois qu'on a choisi, une fois qu'on sait quelles espèces peuvent produire des choses, il y a ce qu'on appelle la sylviculture. C'est finalement l'art de cultiver les arbres, de les mener à leur terme. Et par conséquent...
Et ça prend un certain temps.
Alors oui, la notion de durée est indissociable de la forêt. Hein. Le pin maritime, c'est 60, 80, 90 ans, ce qui est déjà beaucoup. Mais si on s'intéresse au chêne, par exemple, hein, qui est une espèce importante en France, c'est 150 ou 200 ans. Et ensuite, on peut choisir à quelle vitesse on fait pousser cet arbre. Tout le monde connaît les cernes hein, sur le bois, qui sont les croissances annuelles. Plus vous faites pousser les arbres serrés, hein, plus ils vont pousser doucement et plus vous allez avoir du bois dur. Si vous les faites pousser rapidement, vous allez avoir des cernes épais, etc. Et ça, c'est valable pour du bois de charpente, c'est valable pour du bois de marine, ça peut être valable pour du bois d'instruments de musique où finalement, ce qu'on va certainement choisir dans un instrument lorsqu'on va faire ce choix de l'arbre, ça va être ça, ça va être certainement... Je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'imagine que c'est la régularité des cernes, la finesse des cernes, c'est finalement cette alternance qui va faire le son.
Tout à fait. Concernant le sapin, c'est le choix le plus important chez nous, c'est ça. C'est la croissance de l'arbre, elle doit être très régulière. Enfin, nous, on n'utilise pas malheureusement du pin maritime, on utilise du sapin qui pousse à 1100, 1200 mètres d'altitude parce qu'ils ont une croissance plus régulière, plus lente et des cernes beaucoup plus régulières. Donc plus un sapin aura des cernes régulières, meilleur sera le bois.
Je vais prendre la défense du pin maritime. Vous n'utilisez pas du pin maritime ? Si. Je croyais en venant à cette émission que j'allais échapper au lien entre le pin maritime et la lutherie. N'oublions pas quand même que le pin maritime, c'est la résine, que la résine, c'est l'essence térébenthine, qui est la base de beaucoup de solvants.
Oui, tout à fait.
Et n'oublions pas surtout que le sous-produit de la résine, c'est la colophane.
Oui.
Et que sans colophane, il n'y a pas de son.
Et sans colophane, pas de son.
Tout à fait.
La notion de temps est absolument, donc, si j'ai bien compris, d'attente et plus exactement de patience, ce qui n'est pas vraiment la qualité première de notre époque, est absolument extraordinaire. C'est inhumain au sens littéral du terme. Qu'implique justement ce travail ? J'ai cru comprendre qu'il y avait des planches de certains bois qui avaient attendu 200 ans, 2 siècles. Et qu'en est-il surtout du séchage ? Parce que lorsqu'on a coupé le bois, c'est bien, mais est-ce qu'on peut l'utiliser immédiatement pour faire un instrument ?
Non. Alors en principe, la première quête du luthier quand il débute sa carrière, ça va être d'avoir du bois sec et utilisable. Donc on peut acheter du bois qui a déjà été séché naturellement surtout, hein, oui. On ne fait pas de séchage artificiel. Le séchage naturel, une fois que notre pièce de bois, on n'appelle pas ça des planches, nous ce sont des pièces, on débite en quartier. Et une fois que la pièce de bois est débitée, on le garde à partir de 10 ans. On peut l'utiliser à partir d'une bonne dizaine d'années, sachant que ça sèche.
L'immobilisation de stock est incroyable.
C'est une immobilisation conséquente, oui.
Et vous me disiez, pardon, je vous ai interrompu, cela sèche, vous me disiez ?
Alors, si vous voulez, on a deux notions de temps. Il y a la notion de temps de la croissance de l'arbre, oui. Parce qu'on utilise des arbres qui sont bien âgés, hein, qui sont des grands sages, qui ont plusieurs centaines d'années, au minimum 150 à 200 ans pour les sapins. Les érables, c'est un petit peu différent.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais pour utiliser ces arbres, est-ce qu'il y a des forêts prédéterminées ? Je sais, oui. Par exemple, que dans les Alpes, il y a des endroits est-ce qu'il y a même des endroits qui vous sont réservés ?
Non, pas réservés, mais on a des... Alors, dans les Alpes, je ne connais pas trop l'exploitation du sapin. Par contre, on en a un petit peu dans le Jura, en France. Après, il y en a beaucoup dans les pays de l'Est, en Roumanie. Il y a des massifs forestiers où il y a énormément d'épicéas.
Est-ce vous-même qui les choisissez ?
Non, on a des scieurs, enfin des exploitants, si vous voulez, qui sont spécialisés dans le bois de résonance, ce qu'on appelle le bois de résonance.
Qui écoutent les arbres, c'est ça, hein ?
Oui, ils se promènent en forêt, ils tapent sur l'arbre. Alors, ils tapent pas violemment, ils ont un petit maillet, ils écoutent l'arbre. Des fois, un luthier se balade aussi, fait la même chose hein, avec l'exploitant. Et on sélectionne et pour son esthétique et pour sa qualité acoustique déjà sur pied. Voilà.
Justement, quelles sont les essences pour fabriquer ? Ça, c'est un petit rappel pour fabriquer un instrument professionnel. Je crois déjà qu'il y a peut-être l'épicéa.
Alors, professionnel ou amateur, c'est les mêmes. Hein. Ce sont les mêmes. C'est du sapin, de l'épicéa et de l'érable. C'est
l'érable. Voilà. Mais est-ce que chaque bois a une utilisation précise à tel ou tel endroit ?
Alors, le sapin, c'est le bois qui transmet le plus le son. Je crois que ça transmet 1000 fois plus que l'eau. L'eau qui est déjà, quand vous allez plonger, vous entendez un bateau à 2 km. Si vous pouviez plonger dans un sapin, vous auriez les tympans qui exploseraient, parce que c'est une fois sec, hein, bien sûr. Hein. Et donc c'est un bois qui est très 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 transmetteur de son. L'érable, c'est autre chose, parce qu'on a une caisse de résonance, donc il faut une partie de la caisse qui capte le son, des cordes, fait par les cordes et transmis par le chevalet et l'âme. Et l'érable renvoie un petit peu, parce que le son doit être véhiculé par l'air. Donc c'est pour ça qu'il y a des ouïes sur le violon ou le violoncelle, hein, c'est pareil. Il y a des ouïes pour que le son puisse s'évacuer de la caisse. Et l'alchimie, un petit peu, c'est de faire en sorte que le son s'évacue de la façon la plus dynamique possible.
Qu'est-ce que vous entendez de la façon la plus dynamique possible?
Ben si le son restait trop dans la caisse, on aurait un son très cotonneux, on appelle ça carton à chapeau.
Donc une projection, en fait.
Voilà, il faut qu'il soit
projeté. C'est le même travail que l'on peut avoir, par exemple, sur un piano, sur la qualité de la table d'harmonie, qui permet justement la projection du son.
Voilà, il faut que ça projette. Nous, on dit, moi, je dis dynamique, mais enfin, voilà, c'est une projection. Et donc, l'érable a ce rôle un petit peu de ressort, un petit peu pour compresser à l'intérieur de l'instrument et rejeter le son vers l'extérieur.
Les bois, aujourd'hui, il y a une protection absolument extraordinaire et heureusement d'ailleurs de bois, notamment des essences rares. Parfois, on peut utiliser pour la décoration du bois comme le palissandre, mais on utilise aussi pour l'archer le pernambouc, qui est un bois qui est en provenance du Brésil. Comment arriver, entre guillemets, à jongler entre ce qui doit être fait, ce qu'il est permis de faire en termes de préservation, et puis en même temps l'utilisation. Alors je suppose que l'on ne fait pas des archers en permanbouc par tonne, mais tout de même, c'est une exploitation aussi du bois et de la forêt.
C'est très compliqué, parce qu'il y a une législation internationale qui est en constant mouvement. On a été confronté l'an dernier à la menace de l'interdiction totale du pernambouc. Donc ça aurait été une catastrophe pour le monde de la musique en général, parce que tous les archetiers, bien sûr, mais les musiciens qui possédaient un archet en pernambouc n'auraient plus eu la possibilité de continuer à utiliser leur
instrument. Il n'y a pas d'autre solution, Olivier Aguet? On ne peut pas utiliser un autre bois? Est-ce que vraiment le pernambouc, qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Est-ce que déjà, question tout à fait de novice, pour te dire, question candide, est-ce que on fait la différence entre deux archets, l'un en pernambouc et l'autre qui ne l'est pas, ou qui serait d'une qualité inférieure?
Alors, déjà, on fait la différence entre deux archets en pernambouc. Et c'est tout aussi important que l'instrument. Et voilà, un tout petit grammage en plus, en moins, sur la tête ou sur la hausse, va faire que l'archet déjà aura un équilibre qui sera différent et aura un son totalement différent. Donc déjà, avec le même matériau, en fonction de la facture de l'archet, on obtient un son totalement différent. Avec un autre matériau, c'est évident. Alors j'avoue, moi, j'ai jamais trop essayé d'archer en carbone, donc j'aurais du mal à répondre à cette question. Mais c'est vrai que dans nos esprits de musiciens d'instruments du quatuor, oui. Voilà, les archets pour nous, c'est en pernambouc, mais peut-être qu'il va falloir tout doucement imaginer autre chose. Est-ce qu'il y a un équivalent? Moi, je ne saurais pas répondre à ça. Vraiment.
Alors, la comparaison entre ce que j'appelle le synthétique, parce qu'on parle de carbone, mais il pourrait y avoir d'autres matières, hein, la recherche est tellement vaste maintenant, c'est que pour l'instant, on n'a pas trouvé un matériau synthétique qui offre le même spectre sonore que le pernambouc. Le pernambouc offre aux musiciens, il n'y a pas que le côté technique, il y a le côté de la patte sonore aussi, offre un spectre sonore très très large, si vous voulez. Et le composite resserre beaucoup ce spectre-là. Il y a moins de graves, il y a des aigus un petit peu plus...
Acide, dur.
Un petit peu plus dur, oui. Donc le musicien averti, il l'entend tout de suite. Quoi.
Comment se compose ce bois? Il se compose par une densité particulière, par une résistance. Et moi, ce qui m'étonne toujours, c'est peut-être nous en parlerez-vous, c'est la qualité de ces archets, de certaines marques, notamment peut-être dans la lutherie française. Les prix absolument complètement délirants. Alors vous me direz, il y a toujours la question de l'offre et de la demande, mais également le fait qu'il y ait des propriétés tout à fait extraordinaires. Est-ce que ça nécessite aussi, pour faire un archet, après tout ce n'est qu'un morceau de bout de bois, là je pense que je vais me faire tuer par les uns et les autres, mais est-ce que ça nécessite un travail vraiment si extraordinaire qui puisse justifier de tels...
Moi je n'explique pas le talent de l'artiste, pour moi,
voilà,
ça ne s'explique pas. C'est quelqu'un qui a un grand talent, on peut pas l'imiter.
Ça
on peut chercher
tout,
à
ça
limiter.
Ça vaut tout, ça vaut rien. C'est incantifiable.
Voilà.
Je suis d'accord.
Un grand maître, qui, en général, on n'est pas grand maître par hasard. Enfin, je parle de grand maître comme
Stradivarius,
comme Tourte, ouais. comme Pécate, comme beaucoup d'autres, n'ont pas eu cette notoriété comme ça par hasard. C'est parce qu'ils avaient vraiment un talent exceptionnel. Donc ça, moi, je ne peux pas l'expliquer. C'est quelqu'un de génial, il faudra lui poser la question à lui, je ne pourrais pas vous dire. On a quand même actuellement une école d'archeterie française qui brille dans le monde, enfin, qui est ultra compétente. Hein. On a, nos archetiers actuels sont vraiment exceptionnels. Je pense que mademoiselle...
En Pernambouc.
Oui, bien sûr, en Pernambouc. Moi, je ne pourrais pas prédire l'avenir, mais je pense qu'un jour, il faudra peut-être se pencher sur des bois de substitution. Non pas des matériaux composites, mais des bois. Il y a d'autres bois exotiques qui pourraient peut-être être utilisés.
Protégés.
Il y a l'amourette, par exemple, en baroque. Il y a le bois d'amourette. Au XVIIIe, il y avait le bois de fer, mais c'était un bois qui était assez lourd et qui ne répondait pas aux besoins de nervosité et tout ça. Mais enfin, il y a d'autres bois, hein, on peut chercher. Hein, il y a certains archetiers qui font ce genre de recherche.
La difficulté, c'est que ça fait appel à des espèces qui ne sont difficilement cultivables, ou en tout cas dont on ne connaît pas finalement la culture. Donc c'est ça qui en fait, et qui s'intéresse en plus à des forêts primaires fortement protégées. On a d'autres démarches pour revenir en France finalement, où cette dimension artistique, le patrimoine que ça représente, fait partie intégrante de la protection de la forêt et fait partie intégrante peut-être de son objectif de gestion, pourquoi pas. Mais ça veut dire que là on parle de gestion, et c'est ce qui fait la différence finalement avec des besoins en bois dans des forêts primaires par exemple qu'il va falloir fortement protéger, avec des forêts surtout sous nos climats qui font l'objet d'une gestion. Et donc là, la solution, elle est apportée par la gestion.
Alors, la gestion, c'est au centre de nos préoccupations. Hein. Nous, on est tous conscients qu'il faut protéger toutes ces espèces rares venues d'ailleurs, hein, bien sûr, enfin d'autres continents que le nôtre. C'est essentiel. Mais la preuve en est, c'est que nous, on replante du Pernambouc, par exemple, pour pouvoir continuer
pour
les générations à venir, et puis pour que l'espèce continue à durer.
Moi, j'ai d'ailleurs été mise en contact avec une personne qui crée des chevalets et qui, justement, a pour but premier, avec son entreprise, de rendre ça mieux géré, de manière durable. Et donc, justement, d'après ce qu'il me racontait, on avait tendance à abattre un arbre, à regarder comment il est à l'intérieur, et si ça ne correspond pas, on passe à un autre, on abat un deuxième, si ça ne correspond pas, on passe à un troisième. Et là, donc, simplement à accepter que peut-être le bois n'est pas exceptionnel en termes de régularité, mais que ça ne change finalement peut-être pas tant ses caractéristiques et sa qualité. En tout cas, de pouvoir essayer d'utiliser le plus de bois abattu quand même pour faire des chevalets et utiliser un maximum la matière abattue.
Oui, après il faudra convaincre les luthiers, parce que quand on choisit des chevalets bruts, on est très 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 exigeant justement sur la qualité, sur le fil du bois, sur la légèreté, l'élasticité, etc. Donc c'est un peu épineux, quoi.
En fait, il y a aussi une notion de qualité, d'excellence. Quand on regarde par exemple, alors évidemment c'est à un tout autre niveau, mais des grandes fabriques de piano par exemple, notamment de l'autre côté du Rhin, on s'aperçoit qu'il y a une quantité de bois absolument phénoménale, et que l'exigence fait, je l'ai vu d'ailleurs pour un certain nombre dans la sélection de bois, dès qu'il y a simplement une auréole, dès qu'il y a une partie du bois qui décale, automatiquement la planche.
Vous avez la même chose pour le cuir, hein, dès qu'il y a la
moindre
tache.
C'est mis au rebut. Mais là, on est vraiment dans... Oui, c'est ça. En fait, on est dans le luxe. Et il faut qu'il y ait une perfection absolue. Et d'ailleurs, ce que vous disiez à propos du Pernambouc se retrouve également de la même façon dans d'autres instruments, hein, le piano, la clarinette ou autre. Deux instruments qui ont été faits le même jour, qui ont été terminés le même jour, qui ont le même réglage par les mêmes régleurs, on les joue, ce n'est absolument pas le même instrument. Donc il y a des différences absolument considérables. Après, évidemment, c'est le travail du luthier de faire un réglage et de pouvoir...
Qui convient aux musiciens, parce qu'il n'aura pas le même son avec deux musiciens différents aussi.
Exactement.
C'est très compliqué.
Donc il faut avoir une part, entre guillemets, de psychologie pour essayer de ouais. voir à quel point...
mais je pense que... D'écoute et d'humilité, ouais, ouais, voilà, c'est un partenariat entre deux personnes.
De quelle manière peut-on influer, en dehors même du réglage ou même de certains points de détail, sur un instrument? Parce qu'a priori, combien y a-t-il de pièces d'ailleurs dans un violoncelle?
Enfin, un violon ou un violoncelle, entre 80 et 100, ça dépend combien on met de petits taquets à l'intérieur, donc, si on les compte, si on les compte pas.
Un nombre relativement...
À peu près 80, quoi.
Assez peu de pièces. Peut-on influer sur la qualité du son?
Il faut apporter un grand soin à chaque pièce. Mais vraiment, à chaque pièce, même le petit taquet ajusté.
On est dans l'artisanat pur.
On est dans l'excellence de l'artisanat. Enfin, pour moi, l'artisanat, c'est l'excellence. Sans ça, ce n'est pas de l'artisanat, c'est tout. Dans ma artisanat, il y a art. Donc, pour que l'artisanat ait une vraie valeur, il faut que le mot art puisse ressortir.
Et tu attendras le verdict, violon, celui de l'artiste qui te tendra contre sa joue. Le luthier, lui, y a mis toute son âme. À toi maintenant de développer ta personnalité et de faire carrière.
Instrument royal, chef-d'œuvre parfait, pureté mystérieuse, sors-tu vraiment des mains de l'homme?
Je suis tout à fait de votre avis. Olivia Gay, parlez-nous de votre violoncelle qui est, je crois, signé par Domenico Montagnana de 1733 et donc qui était un luthier vénitien et non pas de Crémone. Ah, cela existait donc des luthiers en dehors de Crémone. Magnifique. Parlez-nous de cet instrument.
Ah ouais, c'est un instrument incroyable que j'ai énormément de chance d'avoir déjà depuis quelques années, qui m'est prêté par la Beers International Violin Society.
Oui.
Et donc voilà, c'est un luthier qui a été, qui est extrêmement renommé pour ses violoncelles. On connaît tous peut-être mieux Stradivarius, qui lui a fait de merveilleux violons, mais aussi de merveilleux violoncelles. Et Montagnana, qui est peut-être le luthier qu'on connaît plus pour ses violoncelles, justement. Alors, que dire de cet instrument? Moi, ce qui est un peu incroyable, c'est que je ne fais pas tellement partie de cette famille de musiciens qui personnifient leurs instruments, qui leur donnent des petits noms, qui leur chantent une berceuse en les rangeant dans leur boîte. Voilà, moi, je ne suis pas trop de cette famille-là. En revanche... j'ai eu un coup de cœur dingue pour le violoncelle du grand violoncelliste Truls Mörck.
Oui.
La première fois que je l'ai vu en concert, sur ce violoncelle noir, ultra mat, et je suis tombée amoureuse de son violoncelle. Il se trouve que c'est un Montagnana. Et que quand on m'a proposé de jouer celui-là et qu'on me l'a amené en salle et que j'ai vu ce vernis, parce que il faut savoir qu'il a un vernis, enfin peut-être vous nous en parlerez mieux, mais Montagnana utilisait un vernis qui est très très spécifique et qui est très sombre et qui est craquelé, qui est mat, donc il ne brille pas, et donc qui est quand même très spécifique parce que bon nombre de vernis sont brillants. C'est un vernis quand même assez mat et foncé et qui ressemble finalement à une écorce. Et voilà, donc moi, ça a été une espèce de coup de foudre déjà esthétique de cette lutherie-là. Et puis alors après, bon, bah, le son de Montagnana, alors ils sont tous différents, hein, bien sûr. Il y a des
Comment
super...
pourriez-vous le caractériser? C'est évidemment la chose la plus délicate à demander à un interprète.
Bah, disons que, oui, alors il y a une grande caractéristique quand même du son des violoncelles de Montagnana, c'est qu'ils sont connus pour avoir d'énormes basses très larges. Moi, ce que j'apprécie tout particulièrement sur celui que je joue, c'est qu'il a les qualités qu'on cherche réunies, c'est-à-dire qu'il a la puissance et le timbre. Et que pour avoir essayé bon nombre d'instruments de cette époque-là, d'autres luthiers, je trouve que parfois on a beaucoup de puissance et peu de timbre, et parfois on a beaucoup de timbre et peu de puissance. Et c'est finalement assez rare de trouver un instrument qui a les deux. Donc voilà, je m'estime très heureuse.
C'est un parfait équilibre. On met beaucoup de temps à s'adapter au violoncelle, ou plus exactement que le violoncelle s'adapte à l'interprète. d'une certaine manière, si par exemple votre violoncelle a un problème, que vous ne pouvez pas l'utiliser, vous utilisez, je suppose, un autre violoncelle. C'est perturbant ?
Je ne fais pas ça.
Donc vous avez répondu à ma question.
Non, je pense qu'effectivement, on met toujours moins de temps à s'habituer à un instrument qui était, j'allais dire meilleur, mais en tout cas peut-être plus facile à jouer que le précédent, oui. Plutôt que l'inverse. On met beaucoup plus de temps à s'adapter à un instrument, on va dire, pour simplifier, moins bon que le précédent. Donc quand on accède à des instruments comme ça, on s'y habitue très vite et surtout on jouit tellement de chaque note que finalement... Voilà, mais il reste néanmoins vrai qu'il faut un certain temps pour s'adapter, ne serait-ce qu'aux écarts sur la touche, qui est à chaque fois un petit peu différent d'instrument en instrument, de la prise de son, des limites de l'instrument. Donc oui, il faut du temps pour ça, c'est vrai, mais c'est un moment de découverte qui est génial et qui est passionnant. On se découvre, on va aux limites, c'est génial ce moment-là.
Philippe Fougeras, voyez-vous en ce qui concerne le milieu de la forêt une évolution des mentalités, puisque nous avons parlé là au fil de notre discussion de la notion de préservation de plus en plus forte, la conscience, la prise de conscience d'un univers à préserver. Quels sont les projets pour préserver justement cette forêt ?
La forêt a toujours fait partie de nous, donc on a toujours eu tendance à la protéger, à la préserver. Mais c'est vrai que maintenant, elle, globalement, la forêt, enfin tout du moins en France, ça fait partie des ambiguïtés. On a l'impression que la forêt est en danger. Non, en France, la forêt est quand même globalement protégée, gérée au plan foncier.
Est-ce que justement, vous pensez qu'il y a une relève aussi assurée de la part de ceux qui vont vous succéder dans la préservation de la forêt ?
Ah mais la relève, elle est permanente. Moi, je travaille sur ce qu'ont fait mes prédécesseurs et donc mon objectif est de léguer à mes successeurs. Voilà, on est dans une logique. Ce pas de temps, il dépasse l'échelle humaine. Pour faire un arbre, on dépasse l'échelle humaine. Donc forcément, on profite du travail de
prédécesseurs. Il y a à la fois, comme le disait Gilles Braham, comment dirais-je, des règles de plus en plus strictes qui sont établies. En même temps, il y a des contraintes, il y a une prise de conscience aussi d'un réchauffement climatique qui apparaît et toutes les notions liées justement à la pollution, etc. Là, ça implique en même temps des défis de plus en plus grands.
Alors, c'est des défis de plus en plus grands. C'est des défis qu'on ne maîtrise pas encore. Effectivement, il y a certaines espèces qui ne vont plus être adaptées. On parlait du sol tout à l'heure, qui ne seront plus adaptées par rapport à la problématique du changement climatique. La difficulté, c'est en combien de temps ça va arriver ? Est-ce que ça sera brutal ? Est-ce qu'on aura le temps de s'adapter. La devise du forestier, c'est accompagner la nature et hâter son œuvre. C'est-à-dire, c'est vraiment toujours accompagner ces dynamiques végétales, mais ne pas les contrarier. La difficulté du réchauffement climatique, c'est que s'il y a des problématiques brutales, il va falloir renouveler brutalement. On l'a bien vu avec la problématique des incendies l'été dernier. Voilà, la moitié de la forêt de la teste de bûche a été incendiée. Et donc, se pose la question du renouvellement de cette forêt. Plus que de
là,
sa préservation. Alors ça prendra quelques décennies, oui, pour la renouveler.
Gilles Braham, il y a quelque chose de très particulier dans votre métier, dans votre profession, c'est qu'elle est prestigieuse, elle est connue évidemment de tous les artistes concernés, mais finalement très mal connue du grand public. Vous avez parlé tout à l'heure notamment de l'école française. Il y a une concentration de l'école française aujourd'hui à Mirecourt, depuis quand même pas mal de temps. Pourquoi à Mirecourt ?
Parce que Mirecourt était le centre de la lutherie depuis le 16e ou 17e siècle. Il y a eu beaucoup de fabricants d'instruments de musique en général d'ailleurs, hein, pas que de violons, étaient situés à Mirecourt parce que c'était un grand massif forestier, c'était une région de meubles, de dentelles et d'instruments de musique. Voilà, donc il y a eu énormément d'instruments qui ont été fabriqués là-bas.
Lorsque vous êtes aux États-Unis, est-ce qu'on vous parle de Mirecourt ?
Oui, on me parle de Mirecourt, et j'en parle aussi, évidemment, puisque je suis natif de cette ville. Et tous les musiciens connaissent Mirecourt, tous les violonistes, tous les instrumentistes à cordes connaissent Mirecourt et les luthiers.
Tout naturellement, on a créé une école de lutherie depuis les années 60 qui se trouve à Mirecourt. Ça s'appelle le lycée Jean-Baptiste Vuillaume.
De quelle manière cette évolution, cette transmission s'est-elle faite ? Parce que là, vous me parlez d'artisanat. Combien de temps faut-il pour former un grand luthier ? Ou à luthier tout court ?
Alors, pour être formé à l'école, on est formé en 4-5 ans, à l'école. On est diplômé, on a d'abord un CAP, puis après un brevet, on appelait ça un BT, un brevet technique. Maintenant, ce sont d'autres termes, c'est un diplôme des métiers d'art. Bon, terme qui va être changé, mais pour l'instant, il s'appelle toujours comme ça. Ça, c'est 4-5 ans. Après, il faut aller faire des séjours en atelier, si possible des ateliers où il se passe beaucoup de choses, donc de la fabrication, de la restauration, parce que les deux métiers se scindent un petit peu. Maintenant, il y a beaucoup de luthiers qui se spécialisent uniquement dans la restauration et d'autres qui se spécialisent uniquement dans la fabrication. Pourquoi ? Parce qu'on est de plus en plus nombreux quand même, malgré tout, en France. Il n'y a pratiquement plus une ville moyenne, même petite ville, où il n'y a pas de luthier maintenant. Et dans les grandes villes, moi quand j'ai commencé en 85, on était deux à Bordeaux. Enfin, j'ai appris à Bordeaux, il n'y avait qu'un seul atelier, et puis quand je me suis installé, il y a eu un deuxième. Et maintenant, je crois qu'on est huit à Bordeaux.
Parce que vous êtes à la fois restaurateur, vous créez en même temps des instruments. Comment se répartit par exemple tout le patrimoine, là je veux dire le patrimoine de haut de gamme, de très haut de gamme, pour tous les instruments du Quatuor. Quelle est la quantité par exemple de grands instruments qui sont, je suppose qu'ils sont évidemment tous répertoriés, compte tenu déjà du prix, de l'offre et de la demande, mais quelle est cette part liée à la lutherie et la part en même temps de la création a-t-elle beaucoup évolué, c'est-à-dire est-ce que vous avez de plus en plus d'artistes qui vous commandent des violons ?
Oui. Alors, la part d'instruments historiques, d'instruments du patrimoine, elle est à peu près constante. Alors, je ne saurais pas la chiffrer parce que c'est quand même très important. Mais beaucoup de musiciens solistes, bien entendu, tous possèdent un instrument de grand maître ou de maître. Et dans les orchestres, au moins jusqu'au premier violon, voire les seconds violons, ils ont tous un instrument de très bonne qualité, au moins dans les grands orchestres. Donc ça fait quand même un parc d'instruments qui est assez important. Bon, on n'en voit pas forcément passer beaucoup à Bordeaux, mais en France et dans le monde, il y a beaucoup, beaucoup d'instruments anciens. La particularité du violon, c'est qu'on pourrait presque parler d'instruments éternels, hein, c'est-à-dire que depuis 1600, les instruments existent toujours.
Quoi. Alors, vous avez trouvé tous ces violons où, par exemple, le premier ?
Le premier, je l'ai acheté contre une guitare, c'est celui-là, le Gusetto.
Ça date de quelle époque, ça ? C'est très ancien.
1670.
Et par rapport au Stradivarius ?
Ben, par rapport au Stradivarius a commencé, a vécu de 1643 à 1737.
Est-ce que les gens vous croient quand vous dites que c'est si ancien ?
Pourquoi qu'ils voudraient me croire ?
Parce qu'il y a des musées. Vous demandez la démonstration. Excusez-moi, pourquoi ? Comment vous avez vu que c'était si ancien, quoi ?
J'ai vu que c'était si ancien parce que par la forme, par le bois, par le dos fait d'un seul morceau, vous voyez, par la finesse qu'il a, et puis par tout ce travail, vous voyez ça, c'est si fin, ça. Regardez voir cette petite marqueterie qui est là-dessus. C'est presque une sorcellerie pour arriver à faire ça.
1600, 1700, depuis la famille Amati, par exemple, il y a toujours des Amati qui sont joués régulièrement. Donc c'est un instrument, s'il est bien entretenu, bien entendu, qui est éternel. Après, pour la fabrication, maintenant, il y a eu un développement de la musique qui s'est opéré depuis le début des années 80, mais avec une grande explosion, je trouve, ces 30 dernières années. Il y a une forte demande d'instruments neufs, fabriqués modernes. Donc, une forte progression, beaucoup de jeunes qui se sont installés pour faire de la fabrication.
Voyez-vous une réponse économique à une demande économique ?
Ah oui, c'est l'offre et la demande.
Ou alors, est-ce qu'il y a aussi le besoin peut-être de créer de nouveaux instruments avec des demandes particulières ?
Alors non, justement, enfin, moi c'est un peu ce qui me chagrine un peu, je trouve qu'on est trop dans l'antique et la copie d'antique en permanence. On ne crée pas quelque chose. On crée un instrument, mais en copie. En copie d'un grand maître, en copie d'un Strad, en copie d'un Guadagnini, en copie d'un...
Impossible de copier, puisque vous m'avez parlé tout à l'heure, Olivia, Philippe nous ont parlé, par exemple, de vernis. Ben, on peut très bien chimiquement reproduire des vernis, reprendre des bois très similaires.
Il y a eu des tas d'études et d'articles qui ont été publiés sur les vernis crémonais, par exemple. On a eu des tas d'hypothèses, mais on n'a jamais eu la recette. Hein. Jamais.
Alors c'est de l'alchimiste.
C'est de l'alchimie, voilà. Le mot est là.
En quelque sorte. Et puis il y a peut-être aussi le fait que le temps justement a joué et a permis justement au vernis de...
Il y a l'oxydation.
Absolument.
Faite par le temps et puis des matériaux qu'ils employaient à l'époque, peut-être qu'on ne connaît plus ou qu'on n'emploie plus.
Ils se sont peut-être fossilisés.
Oui, oui.
Il y a ce phénomène entre le vernis et le bois.
Mais ça ne veut pas dire que les vernis actuels ne sont pas bons. Hein.
Ouais.
C'est que ces recettes-là, on ne peut pas les reproduire, on ne les connaît pas. Alors, on connaît beaucoup d'ingrédients, mais il y a la recette vraiment finale, c'est compliqué, quoi.
Puis viendra le vieil homme, le maître octogénaire, avec tous ses gestes d'alchimiste, car le vernissage est l'opération secrète par excellence.
Flacon, bouteille, peau brillant, peau gluant, moire épaisse et liquide clair. Mélange furtif, mélange de sorcier, secret mieux gardé que secret d'État.
Olivia et Gilles, quelles sont les problématiques que peuvent rencontrer les musiciens lorsqu'ils ont un superbe instrument? Quels sont les entre guillemets les risques du métier? Est-ce qu'il y a des problèmes liés à l'hygrométrie, par exemple, des problèmes de colle, évidemment en dehors même des brisures, des fractures? Jusqu'à quel point tout cela est-il réparable, puisque nous parlons à un restaurateur et puis à une musicienne qui a en même temps un violon de très grand prix?
Alors, en matière de colle, ça ne pose aucun problème parce que ce sont des colles totalement naturelles. Alors, ce sont des colles d'os. Donc, il suffit de mettre un peu d'eau tiède, un peu d'eau chaude à l'endroit qui a été décollé. Rien qu'en le pressant, on peut le recoller. Oui. Donc, ce sont des colles qu'on dit réversibles, totalement réversibles. C'est pour ça que les instruments sont éternels aussi. C'est parce qu'on peut les décoller, on pourrait les démonter complètement. Quoi.
Mais alors, comment peut-on arriver à démonter justement un instrument? J'ai déjà vu un violon démonter très, très rapidement. Alors que c'est quand même un instrument d'une légèreté absolument incroyable, et de se dire qu'il y a une telle puissance, une telle force au niveau des cordes, une telle tension. Comment arriver à combiner cela? C'est assez inimaginable, en fait.
Ça a été le génie et la science des anciens qui ont su fabriquer des instruments en tenant compte de tout ça. Il y a eu une évolution au 19e aussi, beaucoup, qui a été faite avec ce qu'on appelle les renversements. C'est l'angle qu'il y a sur la touche qui ont augmenté à cause des salles de concert qui ont augmenté. On jouait dans des salles beaucoup plus grandes, donc il fallait des instruments beaucoup plus sonores. Ça a été valable aussi pour les pianos et pour d'autres choses. Hein. Ça, pour tous les instruments, au 19e, il s'est opéré une...
Absolument. Mais là où il y a eu, en fait, au 19e, il y a eu la révolution industrielle qui a permis, justement, avec des métaux, notamment pour les barres, sur les pianos, de pouvoir supporter des tensions. Un piano de concert, c'est 15 tonnes de tension.
Enfin, la révolution industrielle, oui, mais c'est surtout la demande. C'est-à-dire, il y avait de plus en plus... Il y avait beaucoup de public, donc des salles qui étaient grandes, donc il fallait bien trouver des solutions.
Absolument. Olivia, vous avez déjà été confrontée avec ce violoncelle ou avec d'autres instruments à des problèmes techniques, à des problèmes mécaniques. Qu'est-ce que déjà psychologiquement, je pense que ça doit être assez dur à avaler. Et comment ça se passe? Le luthier pour vous, c'est en fait le docteur, l'urgentiste.
Oui, exactement. Oui.
En quelque sorte.
Oui, c'est ça. Mais pas que. C'est aussi le référent quand on a une gêne ou une frustration sur l'instrument et que nous, on est absolument incapable d'en faire quoi que ce soit. Et ben, c'est un peu notre magicien. C'est un peu la personne qui va tout d'un coup libérer le son et lever cette frustration, ce blocage. Alors, en termes de cassure, je pense que il faut, surtout avec des instruments comme celui que je joue aujourd'hui, être extrêmement précautionneux, sans pour autant devenir complètement maniaque et stressé, parce que sinon on ne peut plus rien en faire et on l'emmène nulle part. Et puis voilà. Mais après, il faut savoir, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'un instrument qui se décolle, c'est tout le temps. Enfin, c'est rien de grave. Après, une fracture, là, on peut paniquer. Alors, moi, j'ai jamais eu de problème grave. Je me souviens juste une fois, quand j'étais enfant, et que j'avais laissé bêtement mon violoncelle debout, et un coup de vent l'avait fait tomber sur l'arrière, et donc la touche était décollée. Effectivement, d'avoir vu ça, mais ça m'avait complètement traumatisée. Je suis rentrée en courant et en pleurant chez mes parents. Et puis, on a filé chez le luthier. Il a dit, on va la recoller, puis c'est tout. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est de voir cet instrument un peu en morceaux. Enfin, pas en morceaux, il y a juste la touche, mais ça a un côté un peu terrorisant.
Un peu terrorisant. Olivier, il y a autre question aussi, puisque nous avons parlé tout à l'instant de la préservation et de l'avenir qui est assuré à la fois pour la préservation de la forêt, de votre côté, Philippe Fougeras, et puis en même temps, Gilles Brahem. D'ailleurs, petite question aussi, je crois que ces jours-ci, il y a un concours de lutherie, c'est la première fois qu'il se passe un événement à Mirecourt. C'est assez étonnant d'ailleurs de songer que c'est... Peut-être aussi cette école, cette tradition française s'ouvre un peu, essaie de communiquer en quelque sorte.
Alors tout ça, c'est né il y a deux ans. Ça devait se faire l'an dernier déjà, mais pour cause de Covid, ça ne s'est pas fait. Ça a été reporté. Ça s'est fait parce qu'on a fêté le cinquantenaire de l'école de lutherie il y a deux ans. Et pour organiser ces festivités, on a invité toute la profession en France. En France, on est de luthiers appartenant à une association. Il y a deux associations en France. Il y a le GLAF, dont je fais partie, et la LATFI, qui est une seconde association. Oui. Et dans les deux associations, on va dire, grosso modo, on est entre 300-350. Quoi. Donc ce sont des luthiers établis, appartenant à des associations. Il y en a d'autres, mais qui ne sont pas adhérents à ça.
Combien y a-t-il d'ailleurs de luthiers en France ?
Déjà à peu près 300 dans les deux, mais après, il y a beaucoup de luthiers qui n'appartiennent à aucune association. Il faut compter au moins le même nombre.
D'accord.
Donc, moi, je dirais pas loin d'un millier en France.
Ah, tout de même.
Voilà. Donc, le concours de lutherie est né parce qu'on voulait organiser le plus de festivités pour ces cinquantenaires de l'école. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas organiser un concours de lutherie à Mirecourt ? Après tout, Mirecourt, c'est quand même l'épicentre de la lutherie historique en France. Ça serait génial d'organiser ça. Et c'est parti comme ça.
Et en quoi va consister ce concours, justement ?
Il est passé le week-end dernier. C'est un concours de lutherie, c'est-à-dire on présente des instruments, alors avec des vernis plats. Ce n'est pas des instruments faits en copie, par exemple. Parce que même la grosse tendance actuellement, ce qui se vend bien, on va dire, ce sont des instruments qui copient un peu l'ancien dans l'esthétique, avec des vernis un peu patinés, etc. Là, pour les concours, c'est niette. Ce sont des vernis plats.
Comment expliquez-vous d'ailleurs cette tendance ? C'est le renouveau baroque qui a fait cela ?
Non, c'est le goût de l'ancien. Un violon, ça doit ressembler à quelque chose d'ancien.
Bon,
c'est la demande.
C'est quelque chose d'ancien, c'est toujours intéressant.
Et puis c'est le mythe aussi, hein. C'est le mythe qui existe autour de ces instruments anciens. Le mythe de Stradivarius, c'est quand même pas rien. Et je pense que tout instrumentiste a un espèce de fantasme un jour de pouvoir jouer un instrument de cette époque-là. La renommée. C'est vraiment l'instrument ancien italien, on va dire. C'est une sorte de graal à atteindre un jour. Et en fait, on se rend compte, je crois aujourd'hui, qu'il y a eu beaucoup de comparaisons anciens-modernes qui
à l'avantage des modernes.
Voilà, qui ont pu être parfois l'avantage des modernes.
Derrière, auparavant, ça se fait. C'est-à-dire, on ne doit pas voir l'instrument. Ça s'est fait encore il n'y a pas très très longtemps. Et même des Stradivarius sont arrivés derrière.
Tout à fait étonnant. Tout à fait étonnant. Et là, pour ce concours, ce sont des musiciens donc, qui jouent les divers instruments, là aussi d'ailleurs par avant. Comment ça se passe pour les concours à Mirecourt ?
Ce ne sont pas forcément des concours de sonorité. Hein. Oui. C'est d'abord un concours de lutherie, donc d'esthétique, de lutherie. Et il peut y avoir un prix spécial sonorité après. Mais c'est jugé déjà sur la technique. En général, un violon très bien fait a toutes les chances de sonner. Hein. Un violon très bien fait déçoit assez rarement. Le premier critère d'un concours, c'est la lutherie, c'est le côté technique, le côté artisanal. Et le son, bien entendu, est important, donc ça passe dans une seconde chambre, on va dire. Donc il y a un prix spécial sonorité. Quand on cumule les deux, c'est extraordinaire. Mais on peut avoir un prix de sonorité, mais pas le prix de lutherie.
Très belle
initiative.
Une
mention pour la sonorité.
Très belle initiative. Olivier Aguirre, peut-être dernière question, puisque c'est vous qui utilisez le bois, qui êtes artiste et qui en même temps avez cet instrument absolument magnifique. Avez-vous conscience que vos confrères, quels qu'ils soient d'ailleurs, pas seulement dans les instruments à cordes, ont également conscience de plus en plus de la préservation de la nature et de cette, plus exactement, de la préservation de notre monde ? Parce qu'il est vrai que tous les artistes ont pour vocation de bouger, de se déplacer, donc d'utiliser beaucoup l'avion. Je suppose que c'est aussi votre cas, si vous faites des grandes tournées. Donc se pose à un moment ou à un autre la préservation durable de la planète. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble de plus en plus pensé par vos confrères ?
Moi, j'irais plus loin que ça. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus pensé par tout le monde. Et j'en suis très contente et je pense qu'on peut tous s'en réjouir que je trouve que chacun, artiste ou non, est de plus en plus conscient qu'il faut faire attention du danger qui nous guette. Alors en ce qui concerne les artistes, spécifiquement, moi j'en connais beaucoup qui justement font attention à ces histoires de déplacement. Moi ça ne me concerne pas énormément dans la mesure où pour le moment je ne vais pas très très loin, on va dire, mais je voyage beaucoup en train. Ça m'arrive quand même de prendre l'avion, bien sûr, mais ce n'est pas toutes les deux minutes. Après, c'est vrai que c'est une question problématique dans des métiers nomades comme les nôtres. Et alors, que faire? Est-ce qu'on ne bouge plus? Est-ce qu'on y va quand même?
Parce qu'il y a toutes les tournées internationales. Lorsqu'un orchestre, par exemple, américain, va en Europe dans plusieurs salles, il y a tout de même une centaine de personnes qui se déplacent. Ça représente un certain nombre de
carbone. Oui, absolument. Parti dans l'air. C'est vrai, bien sûr, c'est un problème. Alors évidemment, après, il faut construire des tournées intelligentes. Il ne s'agit pas d'aller à l'autre bout du monde pour faire un concert et revenir. Il faut... Je ne sais pas exactement, je n'ai pas vraiment de réponse à ça, surtout pour des grosses formations dont vous parliez actuellement, parce que c'est peut-être plus facile pour un petit ensemble ou un soliste de justement construire une tournée logique, on va dire, où on peut vraiment aller dans un endroit pour plusieurs concerts, ensuite passer à un autre pays proche en train, etc. Pour un orchestre de 100 personnes, je ne sais pas du tout comment c'est géré, mais c'est vrai que ce sont des problématiques. Et moi, j'ai vraiment l'impression que les artistes... de manière générale, ont de plus en plus cette idée-là. On les voit à présent avec des gourdes et plus des milliers de bouteilles d'eau utilisées. On voit de plus en plus d'artistes qui utilisent les moyens de transport en commun, de moins en moins l'avion, évidemment, dans la mesure du possible. Pour aller en Chine, c'est pas évident, mais pour aller, je sais pas, en Italie, en Espagne, c'est possible. Ou même en France, on voit de moins en moins d'artistes faire des sauts de puce en avion. Et voilà, donc je pense que la conscience, elle est là. Alors, il y a toujours beaucoup d'efforts à faire et des questions auxquelles répondre, des questions pas forcément évidentes. Mais je trouve que ça va plutôt dans le bon sens au niveau des consciences et de la conscience générale. En tout cas, c'est mon impression.
Et puis, il y a une gestion aussi de la carrière. Vous avez tout à fait raison. Un grand pianiste français, dont je tairai le nom, m'avait dit qu'au début de sa carrière, on lui avait demandé, par exemple, certaines choses pour sa propre promotion, c'est-à-dire d'aller jouer un concerto en sol de Ravel, donc 20-25 minutes, à Hong Kong. Il avait fait l'aller-retour. Donc ça, c'est quelque chose que les artistes, aujourd'hui, ne font pratiquement plus.
De moins en moins.
De moins en moins. De moins en moins. Il y a vraiment cette conscience de la préservation du milieu dans lequel on vit, et puis tout simplement de la Terre.
Oui, des artistes et peut-être aussi des organisateurs. Peut-être que ça viendra moins à l'idée maintenant d'un organisateur de faire ce genre de truc, de dire, voilà, on veut cet artiste pour 20 minutes sur scène, même si on est à des dizaines de milliers de kilomètres. Alors, on va essayer de construire une tournée, justement, pour qu'au moins il puisse... toucher plus de public que juste un soir.
Et puis, il est vrai aussi que la carrière évolue des artistes, que le milieu musical, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour prendre l'exemple des grands violons solistes, que ce soit les Rostropovich, Piatigorsky, etc., ce sont des générations qui étaient avant tout des solistes, mais maintenant, peut-être, on demande aussi aux musiciens, et vous en êtes la preuve vivante aussi, peut-être d'animer un festival, peut-être d'avoir des projets avec d'autres artistes, pourquoi pas avec le théâtre, avec des danseurs, d'enseigner, de faire des classes de maître, d'avoir des défis à relever qui sont autres que ceux simplement d'être l'artiste star qui est sur scène, peut-être parce que non seulement le monde ne le permet plus ou ne l'accepte plus tel quel, mais aussi parce que vous avez peut-être envie de faire autre chose.
Oui, c'est vrai que le côté pluridisciplinaire est quelque chose qui fonctionne très très bien aujourd'hui, même en termes de fréquentation de public, et je le conçois totalement parce que peut-être le milieu de la musique classique est un petit milieu, le public est assez peu nombreux, enfin on va dire en proportion avec si on regarde des publics de pop ou autre, c'est un petit public, et le fait de croiser ces publics avec les publics de théâtre, avec des publics de danse, ou en ce qui concerne mon initiative avec des publics de la nature, des personnes qui aiment randonner, etc., qui vont s'arrêter parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un piano et un violoncelle en pleine forêt, qui vont découvrir la musique classique. C'est vrai que c'est aussi quelque chose d'important aujourd'hui, croiser les publics, amener les artistes à savoir s'exprimer sur scène, à pouvoir donner un cours, à faire plein de choses autour de simplement jouer sa pièce de 20 minutes et puis reprendre son avion.
Absolument. Vrai. Et justement, peut-être ce sera la conclusion de cet entretien avec vous trois. C'est peut-être aussi le fait de ne pas dissocier l'artisan de l'artiste et du public, de créer un lien en fait où chacun essaie de sortir un petit peu de sa chapelle. Vous, Philippe Fougeras, pour faire comprendre que la forêt est un milieu à la fois merveilleux à admirer, mais aussi à préserver. Et de quelle manière on va comprendre très exactement de quelle façon il se forme et il se développe. Vous, Olivia Gay, tout simplement par votre initiative pour faire respirer la musique différemment, et vous, Gilles Brahim, pour aussi montrer que il y a toujours ce moment où l'artisan que vous êtes va devenir un artiste, parce que je crois que vous avez été aussi musicien.
Oui, j'ai fait mes études au conservatoire de Bordeaux, en classe de hautbois.
En classe de hautbois, et là encore, évidemment, on ne quitte toujours pas le bois, on quitte tous les instruments de la petite harmonie, avec quand même une exception dans l'harmonie, je crois, c'est le saxophone, qui est un instrument en métal et qui pourtant fait partie de... partie de l'harmonie. Ça, c'est la petite parenthèse fermée. Et vous, donc, qui jonglez de manière très subtile entre à la fois l'artisanat et en même temps le milieu, l'art, le grand art, le milieu des artistes. Merci à tous les trois pour ce podcast. Nous avons passé un excellent moment ensemble. Et puis, à bientôt, peut-être.
À merci bientôt. Beaucoup. Merci beaucoup.
Merci. À bientôt.
Je voudrais remercier toute l'équipe technique, Lorraine Carpentier, Théo Forstendischer, Hugues Malot et Jean-Michel Ardouin. Et évidemment, le lieu magique et extraordinaire dont nous ne dévoilerons pas l'identité du propriétaire qui nous accueille aujourd'hui au Cap Ferret sous un soleil absolument radieux. Merci à tous.